BFM Bourse, le club de la bourse.
Avec Florian Roger qui est toujours avec nous, responsable de la stratégie d'investissement de BNP Paribas CIB. Rebonjour Florian, merci de nous accompagner. Et puis c'est Philippe de Chollet qui va compléter vos propos, président du conseil de surveillance de Matignon Finance. Bonjour Philippe de Chollet, merci d'être avec nous sur BFM Business. Bon, on a du pain sur la planche avec les résultats d'entreprise du premier trimestre qui ont débuté. On parlait il y a un instant de L'Oréal, il y a une semaine on avait le secteur bancaire aux États-Unis. Aujourd'hui Procter & Gamble, Netflix ou encore American Express, et puis surtout le risque géopolitique et monétaire qui refont leur retour depuis quelques jours, avec une résilience quand même, Philippe de Chollet, qui est quand même assez forte du marché action, des devises. On voit le pétrole aujourd'hui qui se stabilise. Même en début de semaine, le CAC 40 était dans le vert lundi, après les attaques au Moyen-Orient. Le marché est résilient, alors que tout le monde n'est pas à l'aise avec les niveaux de marché et que beaucoup pensent qu'une correction serait le bienvenu.
Oui, c'est vrai que c'est un petit peu le paradoxe. Bon, il se trouve quand même que l'économie montre des signes de solidité, particulièrement aux États-Unis, un peu moins en Europe, il est vrai, bien qu'on commence à voir ici et là des signes plutôt réconfortants. Temps, pourvu que ça dure. Globalement, sur le plan géopolitique, certes, il y a des tensions, mais enfin, pour ce qui est de la situation en Ukraine, ça ne date pas d'hier, et on voit quand même, a priori, qu'il n'y a pas, en tout cas pour le moment, de risque de généralisation du conflit, et c'est exactement la même chose au Proche-Orient. Les pressions américaines sur Israël, mais probablement aussi sur l'Iran, semblent avoir été efficaces, et je ne pense pas qu'a priori, on assiste au cours des prochains jours à une brutale détérioration de la situation dans ce coin du monde. Donc, à partir de là, qu'est-ce que font les investisseurs, si ce n'est se focaliser à nouveau sur les fondamentaux, sur la situation économique? Certes, les chiffres de l'inflation n'ont pas été extraordinaires en février-mars aux États-Unis, avec un niveau un peu plus élevé que ce qu'on attendait. Les investisseurs semblent anticiper une amélioration sur ce point en mai et en juin. Écoutez, on verra bien. Pour le moment, on est en pleine publication des résultats. Ça commence tout juste. Dans l'ensemble, d'après ce qu'on peut voir, en tout cas sur 70% déjà des résultats publiés, on est plutôt au-dessus des prévisions bénéficiaires, ce qui est plutôt quand même assez rassurant. Un petit peu de déception sur la partie activité, chiffre d'affaires, il est vrai, mais enfin sans que ça soit non plus alarmant. Donc, dans le contexte actuel, on ne voit pas pourquoi brutalement, si vous voulez, les marchés corrigeraient. Il nous faudrait plus d'éléments concrets pour se dire, bon, ben, les baisses de taux, manifestement, il n'y en aura pas cette année, ça sera reporté l'année prochaine, l'inflation va s'installer durablement sur des niveaux élevés, et puis les taux iront bon an mal an vers les 5%, les taux longs aux États-Unis peut-être au-delà. Alors là, effectivement, vous avez tous les ingrédients pour avoir une belle baisse, mais on n'en prend pas du tout le chemin.
On n'apprend pas du tout le chemin, et c'est vrai que le marché, pour l'instant, préfère voir le verre à moitié plein plutôt qu'à à moitié vide. Votre regard peut-être pour compléter, Florian Roger?
Tant qu'on n'a pas de blocage du détroit d'Hormuz, en fait, sur les livraisons de pétrole, c'est ce qu'indiquait Philippe tout à l'heure, sur la croissance mondiale, l'impact va rester globalement mesuré. Donc on peut avoir une montée de l'aversion au risque, on peut avoir des prises de profit après la très forte performance des derniers mois, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Sur l'inflation, il va falloir attendre un petit peu d'être un petit plus rassuré, on en parlait tout à l'heure. D'après nous, la désinflation va quand même se poursuivre aux États-Unis, notamment en fait sur la partie immobilière, mais il va falloir constater cette désinflation, et quand on le constatera avec une croissance qui ralentit mais qui tient quand même, effectivement, je partage l'avis de Philippe, là on peut avoir davantage de prise de profit à très court terme, mais je vois pas de scénario où on aille très loin en fait sur la correction.
Avec notamment une zone qui attire tous les regards, c'est la zone Amérique du Nord, les États-Unis, puisque c'est vrai que le marché s'est fait à une tendance en Chine un peu mollasse. On voit encore avec LVMH ou encore L'Oréal qui annonce très clairement que c'est vrai que les ventes ont du mal à redécoller. Et puis une zone en Europe où c'est vrai qu'on n'est pas en récession, mais on n'est pas en forte croissance. On est dans du zéro plus. Et c'est l'Amérique du Nord qui attire tous les regards, Florian Roger, avec une croissance qui est toujours là et qui visiblement n'a pas envie de s'arrêter, avec notamment un déficit public qui l'alimente, cette croissance, il ne faut pas l'oublier.
Quand on voit les ventes de détail qui ont été publiées cette semaine, on peut se dire que la croissance, et c'est la prévision du GDP Now de la Fed d'Atlanta, devrait être proche encore de 3% sur le premier trimestre. Et chez BNP Paribas CIB, on a l'idée que en fait, hors stock et exportation nette, on est effectivement au-delà de 3%. Donc vous avez raison, on a une croissance qui reste forte. Maintenant, si on regarde la dynamique, T2 on aura quand même moins d'impulsion monétaire parce qu'on a une hausse des taux. Donc là, on a un redurcissement des conditions monétaires et financières. On aura moins d'impulsion budgétaire. Et je le disais tout à l'heure, on a un ralentissement salarial avec des ménages qui ont quand même épuisé leur excédent d'épargne. Donc normalement, T2 et surtout T3, je devrais avoir un ralentissement cyclique. En Europe, en revanche, ce qu'on voit là, c'est quand même que on a effectivement un PMI composite qui est passé au-delà de 50. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas eu. Et puis, la BCE est moins inquiète des faits de second tour par rapport à la Fed. Donc, la baisse de taux en juin, elle reste valide. Et si on a effectivement une baisse de taux en juin avec un rebond des PMI, bah, on peut avoir une dynamique qui devienne, cette fois-ci, plus favorable pour l'Europe sur les marchés actions.
En tout cas, en termes d'allocation, aujourd'hui, Philippe Descholet, la zone Amérique du Nord continue de collecter tous les flux.
Oui, bah, ce qui est assez normal quand même. On va quand même vers là où la lumière brille. Ouais. Il se trouve que la croissance est quand même beaucoup plus forte aux États-Unis qu'en Europe. Maintenant, aux États-Unis, ils ont des niveaux de valorisation élevés. Les indices sont sur leur plus haut historique. En Europe, c'est pas encore tout à fait le cas. On a des niveaux de valorisation qui sont quand même plus accessibles. Vous avez donc encore un potentiel de hausse qui est encore significatif sur des pans entiers de la cote. Je pense en particulier aux cycliques. Surtout sur les small et les mid-cap, hein, qui accusent un retard important par rapport aux grandes valeurs. On a aussi des secteurs sur lesquels les Européens sont quand même plutôt pas mauvais, l'armement et bien d'autres encore. Donc je pense qu'on a encore un réservoir de hausse potentielle sur l'Europe, qui serait sans doute alimenté par ce que disait Florian, c'est-à-dire une première baisse des taux quasi certaine, parce que le contexte n'est pas le même qu'aux États-Unis, avec un réveil peut-être aussi, justement, ben des carnets de commandes qu'on commence à voir poindre ici et là, et pour le moment, une consommation domestique, une consommation en tout cas des ménages, qui reste assez acceptable, hein, tout de même. Et on oublie toujours à quel point la redistribution sociale dans un pays comme la France est importante, et elle contribue quand même à ce matelas de sécurité en termes quand même de dépenses, hein. La redistribution sociale, c'est pratiquement 0,2 de croissance assurée par trimestre, hein. Donc, quoi qu'il arrive, on est à 0,7-0,8% de croissance, ne serait-ce que par le biais de la redistribution sociale. C'est un cas un peu unique, enfin, en tout cas, par rapport aux États-Unis, c'est vrai que c'est aligné le jour, mais ils ont d'autres atouts que nous n'avons pas.
En tout cas, c'est vrai que vous venez de parler à l'instant de la baisse de taux qui est quasi certaine pour la BCE au mois de juin. Florian Roger, on en parlait il y a quelques minutes aux États-Unis, le scénario du mois de juin est maintenant un peu mis de côté. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour la BCE et pour la zone euro, pour l'euro aussi, pour la monnaie, de voir une BCE qui va amorcer un petit peu le mouvement, en tout cas qui pour une fois ne va pas suivre la Fed ?
Le cycle d'inflation est complètement différent aux États-Unis et en Europe. C'est-à-dire que aux États-Unis, on a quand même des marchés du travail qui sont tendus, hein. Si vous regardez le World Economic Outlook du FMI, quand vous regardez le ratio entre postes vacants et chômage, on est quasiment à 2. On est à 1 plutôt sur la zone euro. Donc on a quand même beaucoup moins de tension sur le marché du travail. Sur les 3 derniers trimestres, on est en stagnation en zone euro. Donc la croissance était largement en dessous du potentiel. Là, on a une tension sur les prix des matières premières. C'est plus le pétrole que le gaz. Là, l'Europe est quand même très sensible au gaz. Et en plus, la probabilité qu'il y ait des effets de second tour est quand même réduite. Donc, on s'attendait pas au départ à ce que la BCE sorte avant la Fed, parce qu'elle l'a rarement fait. Normalement, c'est pas dans ce sens-là. Mais là, le rationnel veut effectivement qu'on ait plutôt une baisse de taux de la BCE avant la Fed sur le mois de juin quand on regarde le cycle économique.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'inflation de second tour et puis surtout d'un euro un peu plus faible face au dollar ? Il est déjà à 1,06 alors qu'en début d'année, fin d'année 23, il était quasiment à 1,10.
Si on regarde les prévisions de la Banque Centrale Européenne, en mars, on a eu des révisions baissières. Là, parce qu'on a eu des bonnes surprises, en fait, sur la fin d'année dernière et sur le début d'année. Là, les chiffres vont être révisés à la hausse, parce qu'effectivement, bah, y a l'impact, hein, sur l'augmentation des prix des matières premières. On est sur un impact pétrole de 7 à 10%, donc voilà, ça fait une légère transmission. Après, finalement, on revient sur les chiffres de janvier. Donc, le scénario, selon nous, 2025-2026, c'est quand même un scénario où on revient à la cible de la Banque Centrale Européenne. Donc, à partir du moment où on signale qu'on va revenir à la cible, pourquoi rester en territoire restrictif? Ça milite pour qu'il y ait effectivement une baisse de taux en fait sur le mois de juin. Et s'il y a une dépréciation du change, elle n'est pas forcément très gênante. Ça va soutenir un peu plus la croissance sur le début de l'année. C'est ce qu'on disait avec Philippe tout à l'heure. Sur l'aspect cyclique européen et small caps, ça peut quand même redynamiser et aider cette partie de la cote qui est comme aujourd'hui très décotée.
Bon, en tout cas, vous avez le refrain aux États-Unis qui est tout autre, hein, avec des taux qui vont rester plus élevés plus longtemps. Jerome Powell qui a dit en début de semaine qu'il n'était pas à l'aise avec les données. déconné. Le président de la Fed de New York qui a enfoncé le clou hier. Et un marché, Philippe de Cholet, qui encaisse quand même très bien ces nouvelles. Alors certes, j'ai compris vos explications par rapport au risque géopolitique, tant que la situation ne sort pas des frontières et qu'il n'y a pas de risque sur le pétrole, tout va bien. Mais là, quand même, on va changer de paradigme totalement par rapport au mois de décembre, avec Jerome Powell qui était ouvert à 4 baisses de taux, 3-4. Là, on n'y est plus du tout aujourd'hui, Philippe de Cholet.
Non, mais les marchés, vous l'avez vu, sont résilients, hein, comme vous le dites. Ouais. Je pense que, oui, c'est certainement quelque part une déception, plus aux États-Unis que pour nous, pour les raisons qu'exprimait Florian à l'instant, à savoir que cette première baisse des taux, elle est, pour ainsi dire, quasi actée par les marchés aujourd'hui en Europe. En revanche, pour ce qui est des États-Unis, la vraie question aujourd'hui, c'est plus la question, je trouve, de l'inflation que celle des taux. La vraie question, c'est est-ce qu'effectivement la Fed est en mesure de parvenir à revenir au seuil des 2% ou pas ? Et là, il est très compliqué pour nos autres économistes d'arriver à avoir une vision très claire et très certaine des choses, parce que les règles du jeu quand même ont changé. Vous avez quand même un certain nombre de facteurs objectifs qui expliquent que le monde n'est plus tout à fait les mêmes que celui qu'on a connu il y a 2-3 ans. Vous êtes dans un vaste mouvement de relocalisation, vous savez, des chaînes de production qui induit nécessairement une hausse des coûts de production elle-même. Vous avez cette hausse des coûts des matières premières également qui est importante. Vous avez objectivement pas mal de raisons qui vous amènent à penser que on se sera sans doute probablement plutôt durablement, j'en sais rien, on verra bien, autour de 3-3,5% d'inflation que de 2. Donc il faudra bien un moment ou un autre que les marchés actent le fait que l'objectif de revenir à 2 n'est probablement pas très réaliste, en tout cas à court terme, certainement pas. Ensuite, si la croissance des bénéfices résiste, et c'est tout l'enjeu, il n'y a pas de raison non plus que les marchés, si vous voulez, corrigent fortement. C'est le jour où on verra effectivement que la croissance bénéficiaire des sociétés marque le coup, que là vous aurez un ajustement qui peut être brutal, parce qu'on est effectivement sur des niveaux élevés. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, j'allais dire, profitons-en, les marchés veulent voir, comme vous dites, le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide, pourvu que ça dure.
En fait, il y a une sorte de balancier avec d'un côté le risque monétaire, géopolitique, etc. Puis de l'autre côté, en fait, les résultats des entreprises. En plus, là, on va arriver dans la période des dividendes. Donc l'un dans l'autre, ça se maintient, c'est ça au final votre lecture ?
Oui, ça se maintient bien, mais avec quand même une situation assez contrastée quand même d'un secteur à l'autre. Vous l'avez bien vu dans les résultats des banques américaines.
C'est vrai que les indices sont pas des bons.
Certains ont bien tiré leur épingle du jeu, d'autres moins. Or, le secteur bancaire est souvent quand même un indicateur un peu avancé de ce qui va se passer dans le reste de l'économie. On le voit bien également dans les publications des producteurs de semi-conducteurs, où ils vous disent qu'en dehors des puces d'intelligence artificielle, eh bien, les clients, les donneurs d'ordre sont encore assez frileux. Donc on voit bien que d'un secteur à l'autre, la situation quand même n'est pas la même. L'automobile, par exemple, étonnamment, marche plutôt bien, alors que c'était pas a priori anticipé, en tout cas pas à ce stade aussi vite. Tant mieux pour ceux qui ont acheté du Renault et du Peugeot il y a quelques mois. Ils ont fait plutôt de bonnes affaires. Donc, d'un secteur à l'autre, la situation est assez différente. Et aux États-Unis, ils avaient exactement le même phénomène, avec des résultats, d'ailleurs, qui ne sont pas forcément toujours les mêmes selon les secteurs de part et d'autre de l'Atlantique. Mais c'est intéressant, on en saura sans doute beaucoup plus une fois que la période de publication des résultats sera terminée. On n'en est pas là.
Vous restez avec nous dans un instant, on va poursuivre notre discussion, mais juste avant, je vous donne la tendance avec le CAC 40 qui, dans ses dernières minutes, puisque dans précisément 18 minutes, ça sera le fixing à la Bourse de Paris, et étale le CAC. 0,01% de variation, 8024 points, mais il y a du volume, avec notamment quasiment 2,5 milliards d'euros négociés. L'Oréal qui est en tête de l'indice, qui permet à l'indice de se maintenir, on en reparlera dans 20 minutes. Et puis, à l'inverse, Schneider Electric qui ferme la marge du côté de Wall Street. Vous avez le Dow Jones qui gagne 0,4%. À l'inverse, le S&P est bien parti pour signer sa sixième séance dans le rouge, moins 0,3. Le Nasdaq perd quasiment 1%. Et puis sur le front des matières premières, à noter le pétrole qui, depuis l'ouverture de Wall Street, repart à la hausse, plus 0,3 pour le Brent à $87, quand l'euro, de son côté, grappille quelques points de base face au dollar. L'euro-dollar qui s'échange à 1,0670. Et donc le CAC 40 qui va clôturer dans un peu moins de 20 minutes. On suivra ça, bien sûr, sur BFM Business. Florian Roger donc, nous accompagne aujourd'hui, responsable de la stratégie stratégie d'investissement de BNP Paribas CIB et Philippe de Chollet, président du conseil de surveillance de Matignon Finance. On continue bien sûr ces discussions très intéressantes par rapport à cet équilibre qui mine de rien permet au marché de tenir. Aujourd'hui, Florian Roger, avec c'est vrai, le TINA qui n'existe plus, maintenant il y a des alternatives même sur le monétaire, notamment aux États-Unis où on a notamment l'obligataire qui est sur des plus hauts de 5 mois. En termes d'investissement, parce que comme vous êtes responsable de la stratégie d'investissement, comment vous voyez aujourd'hui cette alternative obligataire, monétaire, qui finalement n'est pas morte, puisqu'on disait jusqu'au premier semestre ça va être intéressant, puis après avec la baisse des taux, il faudra peut-être revenir un peu plus sur la poche action. Là finalement, le retard des baisses de taux donne raison une nouvelle fois au monétaire.
Oui, alors sur l'allocation d'actifs, on en parlait précédemment, selon nous on a une surréaction quand même à la hausse des taux. Là, sur un peu l'ensemble des échéances en fait aux États-Unis. Donc c'est un moment où là les inquiétudes sur le front de l'inflation et le fait que le marché commence à anticiper qu'il y aurait pas d'assouplissement monétaire sur 2024, ce qui sera pas la réalité selon nous, donne l'opportunité de se repositionner pour avoir du rendement en fait sur la partie obligataire souveraine. Maintenant, sur la partie crédit, ça peut être un petit peu plus compliqué. Le premier trimestre a été très positif. On a eu le pivot de la Fed et on était dans une phase de reflation de l'économie mondiale. Là, sur les deux et troisième trimestre, ça va plus ressembler à la stagflation aux États-Unis d'une certaine manière. Donc, ça peut être un petit peu plus compliqué, en fait, sur le rendement du crédit, des obligations d'entreprise, après la très forte performance, en fait, qu'on a eue au cours des dernières semaines. Sur la partie action, ce qu'on peut avoir...
Pardon, je vous coupe, mais pour un investisseur qui va jusqu'à l'échéance... peu lui importe au final que son obligation s'est un petit peu dépréciée.
À partir du moment où il n'y a pas de défaut, peu lui importe. Mais l'idée pour un investisseur actif, c'est quand même d'optimiser les positions de son portefeuille. C'est ce qu'on fait à chaque fois. Là, disons que sur les prochains trimestres, on pourrait avoir une sous-performance de cette classe d'actifs.
Des obligations
d'entreprise, exactement, disons les plus fragiles. Sur la partie maintenant action, on peut avoir un peu plus de rotation. D'après nous, on aura un peu moins de dynamisme cyclique sur la partie américaine, notamment sur toute la partie consommation discrétionnaire, puisque on a quand même épuisé le matelas d'épargne qui vient du Covid. Et là, on a un choc de pouvoir d'achat qui arrive avec l'augmentation des prix des matières premières. Et puis, l'augmentation des taux longs est quand même défavorable pour la consommation discrétionnaire. Côté européen, en revanche, on aura une baisse de taux en juin. Et selon nous, la reprise cyclique, où là, on commence à avoir des pousses, va se consolider au cours des prochains trimestres. Donc, il y a des effets de rattrapage de stock. On le voit notamment en Allemagne, sur la production industrielle, sur le S1. Mais au S2, on devrait gagner en amplitude. Et donc, là, on peut avoir une rotation vers davantage de cyclique européen. Et la partie qui est intéressante, selon nous, s'il y a une baisse de taux, c'est les small et mid cap. Donc, avoir de l'indexation sur les mid cap ou des stratégies de dispersion même sur les valeurs les plus fragiles offre énormément d'opportunités aujourd'hui en Europe.
Donc, si on synthétise, aujourd'hui, l'obligataire, oui.
Sur la partie souveraine, dans une logique de rendement, un peu plus de prudence sur la partie obligataire d'entreprise, plus risquée. Il y a moins, le couple rendement-risque est moins favorable. Et sur la partie action, pour une fois, l'Europe peut tirer son épingle du jeu. Et il y a quand même une option à aller chercher, selon nous, sur la partie mid-cap, avec la baisse des taux de la BCE à venir et la reprise conjoncturelle qui devrait se renforcer.
Un mid-cap, avec un départ qui se fait attendre, puisque depuis plusieurs mois, des investisseurs jouent avec une collègue qui était revenue. Et puis là, depuis quelques semaines, c'est beaucoup moins le cas. Philippe de Chollet, c'est assez amusant de voir d'un côté Florian Roger qui, à juste titre, nous dit il y a de moins en moins d'épargne chez les ménages, etc. Et puis quand on regarde les publications d'entreprise, alors certes, pour l'instant, c'est le début, mais quand vous regardez le luxe, L'Oréal, LVMH positif, les compagnies aériennes aux États-Unis, elles relèvent leurs prix, tout va bien. American Express relève ses objectifs, la dépense des consommateurs est encore là. C'est assez amusant de voir en fait les entreprises qui sont confiante, prudente, mais quand même positive pour cette année. Et puis de l'autre côté, les données macro sur le consommateur qui sont pas alarmantes, mais qui montrent quand même que c'est un peu moins la fête qu'il y a deux ans.
Oui, ça c'est sûr, pour les raisons qu'évoquait Florian. Maintenant, je crois aussi, vous savez, à la capacité d'adaptation, le fameux pricing power des entreprises a quand même beaucoup évolué, c'est beaucoup sophistiqué. Regardez ce qui est arrivé un peu dans la grande distribution au moment du Covid, etc. et autres. Vous avez vu à quel point très vite ils ont constitué des paniers de produits maison à 10-15% en dessous des marques, des produits de marque. Et les Français ont répondu tout de suite présent. Donc, vous avez aussi une capacité d'adaptation participation des entreprises aujourd'hui qui est beaucoup plus importante que par le passé et qui fait quand même que, bon an mal an, beaucoup de ménages s'y retrouvent. Alors oui, bien sûr, on fait des économies sur des postes qui peuvent être importants, notamment tout ce qui est téléphonie mobile, et c'est vrai qu'ils sont des coûts importants dans le ménage, dans les ménages en France aujourd'hui. Mais vous avez aussi beaucoup d'autres postes sur lesquels quand même la concurrence, le pricing power permet quand même aux entreprises d'être encore en phase avec le pouvoir d'achat des ménages. Hein. C'est quand même une donnée qu'il faut avoir en tête.
En termes d'allocation, comment aujourd'hui vous arbitrez les portefeuilles chez Matignon Finance ? Il y a un instant, on parlait de l'obligataire. J'imagine que c'est les comptes à terme et puis le monétaire, vous le délaissez pas tout de suite, j'imagine.
Non, tant qu'on a du monétaire qui est autour de 3%, il serait quand même idiot d'aller bouder ce type de produit. Ça durera ce que ça durera. En revanche, on a plutôt, nous, joué, en tout cas jusqu'à une date récente, les produits obligataires crédit corporate sur les fameux fonds obligataires datés. Pour les raisons que vous évoquez, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on tient ses fonds jusqu'à l'échéance, a priori, on ne prend pas de grands risques et on a encore des rendements qui sont quand même sympathiques, hein, entre 4, 4,5, 5, 5,5 et même un peu plus élevé encore si on accepte d'aller sur du high yield ou sur des émergents. Mais sans aller jusque-là, à horizon 2025-2026, vous avez encore des fonds obligataires datés qui vous rapportent sensiblement plus que le monétaire avec une garantie de rendement qui est quand même assez forte si on tient ses fonds jusqu'à l'échéance. Donc, on s'en est pas privé. Maintenant, évidemment, la situation va probablement changer un peu. On va revenir davantage sur, comme le disait Florian, sur les obligations souveraines, évidemment. Et puis aussi, ne pas oublier quand même les actions, hein, et notamment sur ce qui a du retard. Et parmi les classes d'actifs qui ont du retard, il y a effectivement les small et les mid qui pâtissent beaucoup de leur manque de liquidité. Je pense que c'est la raison numéro un qui explique qu'aujourd'hui, tant d'investisseurs les boudent un peu. Malheureusement.
19 avril, dans un peu plus de 10 jours, on sera déjà au mois de mai. Vous connaissez le dicton. Ça va être un mois de mai de correction. Est-ce qu'il faut le prendre, cet adage, vendre en mai et s'en aller ?
Pas nécessairement. C'est vrai, cela dit qu'on est sur des niveaux assez hauts sur les indices. Donc, on n'a pas vraiment le droit à de mauvaises nouvelles. Ça, c'est une certitude. Si les chiffres de l'inflation devaient être encore élevés, en tout cas plus élevés que ce qu'on attend pour les 2-3 mois à venir, là, oui, il y a de bonnes chances quand même qu'à un moment ou un autre, le marché corrige. Ça ne sera pas forcément un crack de grande ampleur, mais on pourrait assez facilement perdre de 5 à 10% sans problème. Voyez. Donc, on va devoir quand même regarder ça un petit peu comme le lait sur le feu.
Note prudente, donc.
Oui.
Dans 9 minutes, ça sera le fixing à la Bourse de Paris. On rejoint Aude Kersulek, vous serez avec nous pour la clôture à la Bourse de Paris. Comment ça se passe dans ces dernières minutes de cotation ?
Bon, le CAC, on est sur une note franchement stable pour la fin de semaine. Alors attention à la fin de séance, parce que tout de même, on est sur une séance volatile de débouclage de position. Les trois sorcières, ce sera une semaine stable, légèrement positive. On va regarder deux indicateurs dont vous avez parlé d'ailleurs, mais qui ont quand même animé notre semaine. C'est les taux obligataires avec le taux 10 ans américain qui avait commencé la semaine à 4,5%. On l'a fini à 4,61%, sachant qu'on est allé quand même jusqu'à 4,66% et que sur le 2 ans américains. La barre des 5% a même été franchie cette semaine. Voilà pourquoi on est quand même bien finalement sur les valeurs de la tech. Ça se portait pas très très bien cette semaine. Et puis focus sur le pétrole. Moins 2% sur la semaine. Retour sur les $90 pour le Brent. $90 qui avait été franchi la semaine dernière. En attendant, c'est vrai, la riposte de Téhéran. Depuis les événements géopolitiques qui restent mesurés, qui restent dans la démonstration de force ou l'avertissement, comme on l'a vu cette nuit, rassure pour le moment les marchés et notamment les traders de matières premières.